dans le panier de Lisa. Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans le panier, premier panier du mois d'octobre. On va parler donc des livres que j'ai lus en septembre. Il y a des coups de cœur, vous allez voir, et des livres à la fin. Je vous expliquerai les livres que je suis en train de lire et que je lirai tout le mois d'octobre. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Écoutez, on a subi une petite période un peu glaciaire, n'exagérons rien, le lutin, lui, dès qu'il fait moins de 9 degrés, c'est égal à glaciaire. Un peu plus fraîche, voilà, mais écoutez, on est au début octobre, on peut avoir un joli petit été indien, et puis de toute façon, hein, on est rentré dans l'automne, après c'est l'hiver, et bientôt le printemps. Fille, 6 mois après, c'est comme ça, hein, c'est les saisons, voilà. Et puis on a tellement eu chaud, canicule cet été, que hein, ça va nous faire du bien, peu de frais. Alors, on va attaquer, bien sûr, par une chanson. Alors, vous allez voir, il y a un rapport, mais très lointain quand même. très très lointain quand même. Mais on va commencer avec mon premier coup de cœur, enfin, je vais commencer avec les deux coups de cœur de la rentrée littéraire. C'est les 4 livres dont je vais vous parler, c'est 4 livres de la rentrée littéraire. Toutes les années, j'essaie en septembre de sélectionner 5 à 6 livres qui sortent au mois de. Maintenant, c'est entre carrément le 15 août et le début octobre. Parce que ça me plaît, voilà, et que je suis très contente à chaque fois qu'il y a des auteurs qui sortent un livre, des auteurs que j'aime qui sortent, voilà, ce qui a été l'occasion là pour 3 d'entre eux, donc voilà. Allez, on commence en musique, Boney M. Rasputin, ça vous indique un peu dans le pays où on va partir, voilà, mais sinon il n'y a aucun rapport, hein. Oh là, oui.
Hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
C'était donc Bonnet avec Rasputin. Alors, on va parler du premier coup de cœur que j'ai eu au mois de septembre, qui est Adieu Colima d'Antoine Sénanque. Alors, j'avais eu un très gros coup de cœur l'année dernière pour Croix de Sande. D'ailleurs, Croix de Sande qui sort en livre de poche, qui a dû sortir, qui devait sortir début octobre, je crois, ou en tous les cas, pas loin. Donc, n'hésitez pas à aller lire celui-là. Et quand j'ai vu qu'il sortait un livre pour la rentrée littéraire, inutile de vous dire que j'y ai sauté dessus. Alors, Antoine Sénanque nous offre un roman haletant qui se passe à la fin des années 50, donc à partir de 1956, juste après l'insurrection hongroise. Et il nous fait nous croiser des chefs de clan, des anciens détenus du goulag, des tueurs, des anciens zecs, des flics, des ripoux, et tout ça en nous baladant entre Budapest, Moscou, Magadan, donc dans la péninsule de la Colima. Et tout ceci se centre bien sûr à la Colima, qui est le véritable trait d'union de ce roman, alors qu'il y a un cauchemar pour les uns, qui est un dernier baroud d'honneur pour les autres. Et on va suivre particulièrement une femme qui s'appelle Sylla Bach, qui est orpheline, qui a été élevée par un tanneur qui s'appelle Varlam, lui aussi ancien de la Colima, qui lui tient un peu de père adoptif. Et en grandissant, cette gamine va s'endurcir et va devenir, suite à son incarcération dans un camp de la Colima, et on apprend par certains flashbacks pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, elle va devenir la tueuse à sang-froid d'un chef de gang qui s'appelle Lazar Vadas, qui est transylvanien, et son frère à Lazar, qui s'appelle Pal, le haït, enfin ils se haïssent hein, tous les deux. Et donc un jour, met un contrat sur la tête de la fille de l'autre, et c'est Sylla qui va exécuter ce contrat, ne sachant pas qui elle va exécuter, parce qu'on lui a caché le lien de sang entre ces personnes. Alors, le père, évidemment, lui en veut à mort, mais au lieu de la tuer, il la condamne en fait à ne vivre que toute seule, et à plus ou moins lui faire comprendre que si elle possède quelque chose, eh bien, il va lui enlever par le sang, alors que ça soit un objet, une personne, etc. Sauf que pendant sa détention à la Colima, elle a rencontré dans le camp des femmes une autre femme qui s'appelle Cassia, dont elle est amoureuse. Et cette ancienne de la Colima vit à Budapest, où on rencontre Sylla pour la première fois, et elle la surveille, elle la protège depuis 9 ans, espérant que personne ne saura le lien qui les a unis. Et c'est comme ça que ce roman se monte, c'est-à-dire c'est vraiment la recherche et la vengeance et la haine de certaines personnes. Alors, Adieu Colima, c'est un roman noir, un roman historique, un drame humain qui prend racine véritablement dans l'obscurité des goulags, Y compris quand on les a quittés, puisqu'en fait c'est un peu un boulet à la pâte. Alors c'est une écriture très légère, Antoine Sénanque, mais très intelligente. Il parle de l'insurrection de Budapest, de la chute de la politique de Staline, de la hiérarchie dans les goulags, des conditions de vie, bien sûr, de ces déportés, des inimitiés entre les peuplades russes et les peuplades, évidemment, des certains pays satellites de l'URSS de l'époque, du rideau de fer, bien sûr, et malgré tout ça, il n'oublie jamais l'humain, et dans l'humain, ben, il y a la haine, il y a l'amour, il y a la vengeance, il y a la honte, il y a la peur, la jouissance amoureuse ou haineuse, et tout ça fait que ce livre se lit littéralement en apnée, et que on est aux côtés de cette déterminée mais intraitable Scylla qui n'a qu'une seule faille, en fait, c'est Cassia. Voilà. Alors il y a des allers-retours entre les pays, entre les lieux, entre les périodes qui sont très bien amenés et qui donnent une grosse profondeur de lecture et un rythme très soutenu. Et quelquefois, vous avez une parenthèse. Voilà, c'est la force de Sénanque, c'est que quelquefois, dans ce côté haletant, il va mettre un espèce de temps suspendu, un paragraphe où vous sentez que c'est beaucoup plus léger, alors que autour, c'est pas facile. Alors moi, bref, j'ai adoré ce roman. J'ai trouvé ça romanesque, froid, mais j'ai aimé sa froideur, sa beauté et ce fil invisible de l'enfer des goulags dont si on revient, on n'en parle vraiment jamais. Vraiment, si vous aimez l'histoire, si vous aimez le côté romanesque, vous aimez voyager, hurler, aimer, pleurer, saigner dans la grisaille du bloc communiste, eh bien, adieu Colima d'Antoine Sénanque chez Grasset, c'est fait pour vous. Hein, voilà. Alors vraiment, c'est fait pour vous si vous avez aimé. Et écoutez, on va écouter un petit peu de musique. Ah oui, alors ça c'est le choix du lutin. Moi, je plaide coupable. Hein. Je suis influencée par le lutin. Il m'a dit, ah, mais ça serait pas mal de mettre ça. J'ai dit, mais je la connais pas, c'est la chanson. Il me dit, ouais, mais tout le monde la connaît. Je dis, non, ça m'étonnerait. On va écouter Johnny Hallyday avec Cours plus vite, Charlie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce... Voilà, tout ça parce que ça a une relation avec le narrateur du deuxième coup de cœur. Ah ouais, non, mais là, tu es allé très très fort, le lutin. Personne connaît cette chanson. Enfin, j'ai jamais entendu ça, moi.
Le paysan nommé Charlie avait dit à son voisin Jean: nous aimons, je crois, la même vie depuis déjà longtemps. Faisons alors une course à travers tout le pays. Celui de nous deux qui gagnera épousera Lucy. À cours plus vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. À cours plus vite, Charlie, et tu gagneras. La fille sera pour toi. Ouais. J'avais une voiture qui attirait les regards. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert les portes de son palais pour recevoir les jolis yeux verts de mademoiselle Lucie. À cours plus vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. À cours plus vite, Charlie, et tu gagneras. La fille sera pour toi. Ouais. Mais le paysan nommé Charlie n'était pas si riche que Jean. Il n'avait jamais de beaux habits, il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami lui soufflait dans le dos. À cours plus vite, Charlie, et tu gagneras. Pour toi.
Alors, je confirme, j'ai jamais entendu cette chanson. C'est quoi ça? Mais d'où tu l'as sortie, celle-là? Bon, bref, Johnny Hallyday, court plus vite Charlie. Tout ça pour parler d'un livre qui implique Charlie Chaplin. C'est vraiment la honte, quand même, à ce niveau-là. Bon, bref. Alors, on va parler d'un livre qui s'appelle Doppelganger, de Gérard Guisse, qui est un auteur catalan. J'ai adoré les livres précédents de Gérard Guisse et je vous implore de lire Le cimetière de cet auteur. Alors, Doppelganger, on va le dire tout de suite, comme ça on va éliminer le côté un peu gênant. Oui, on peut rire, ricaner, se gausser quand on lit un roman qui implique les hauts dignitaires du Troisième Reich. Surtout, si c'est sous la plume d'un écrivain qui manie une documentation pointue, une analyse fine et cyniquement drôle, il faut quand même le dire, un humour assez décalé, et le tout dans les derniers jours d'Adolf Hitler dans son bunker. Alors oui, j'ai ri dès les premiers bas de page, parce qu'il y a de quoi. Et surtout, ce livre vaut par ses bas de page. Alors bien sûr par le texte hein, lui-même, etc., qui est très 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 fourni et très très bien fait, mais les bas de page, je peux vous assurer que c'est ciselé, c'est du grand art. Alors c'est une très grosse pavasse, hein, qui au, donc au Forge Vulcain, qui fait plus de 768 pages hein, et quelques lignes, hein, allez-y, à vous l'honneur, et qui montre en fait, dès la couverture et la quatrième, de quoi il est question. D'un côté, vous avez un dictateur paranoïaque en fin de course. De l'autre côté, un clown qui a joué ce fameux dictateur bancal et minable dans un film. Oui, d'un côté, Adolf Hitler, fureur en titre du moribond Troisième Reich, planqué dans son bunker berlinois avec sa garde rapprochée, et les potentiels successeurs qui se tirent dans les pattes, il faut quand même le dire, depuis pratiquement 1933, mais bien avant pour certains, et qui est à quelques jours de son anniversaire sous les orgues de Staline, qui tire à boulets bien raccourcis sur Berlin, et la 9e armée américaine, qui n'est pas très très loin, mais qui fonce sur la capitale, qui va arriver bien sûr bien avant, bien après les soviétiques, et tout un peuple qui est entre peur, fascination et carrément résignation. De l'autre côté, vous avez un acteur britannique, roi d'Hollywood, drôle, talentueux, tendre, moquant les travers des puissants et compatissant avec les pauvres dans ses films, les faibles, beau comme un camion, faut quand même le dire, ah bah si, Charlie Chaplin était beau comme un camion, et qui porte quand même assez beau la moustache, moustache que porte également Adolf Hitler, un peu à la Charlot, qui est né 4 jours avant lui. Parce que le point de départ de ce postulat de ce roman, c'est ça. Les deux hommes sont nés en avril 1889. Adolf Hitler le 20, Charlie Chaplin le 16. Et dans le bunker, tout le monde se prépare à fêter l'anniversaire du Führer. Et comme cadeau d'anniversaire, il y en a un qui dit « Ah bah tiens, on devrait lui offrir son thème astral. » Ça, c'est une bonne idée, sachant que le Führer était très féru de ce genre de choses, hein, d'astrologie, de thèmes astro, etc. Et donc, on va dire, ah bah, ça va lui remonter le moral, c'est un peu la fin du monde nazi, on va dire, oh, allez, vas-y, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Simplement, bah, y en a un qui se trompe de date en commandant le thème astral, c'est ballot. Il donne, en fait, la date de naissance de Charlie Chaplin. Et à partir de ce moment-là, ces deux hommes d'origine modeste qui sont arrivés au sommet, alors, de différentes manières et pour différentes raisons, bah, est-ce qu'ils n'étaient pas juste le double de l'autre et que serait-il arrivé si leur naissance était inversée? Voilà, et ce roman-là est extrêmement bien documenté. Alors, vous savez que je quand même tire plus que... Je touche plus que ma bille sur la période, c'est un peu ma spécialité universitaire. Et c'est très détaillé, ça fourmille de références, avec des personnages très connus d'ailleurs qui sont dans la liste dans l'avant-propos. Alors j'ai été très contente parce que je les connaissais tous, donc du coup je me suis dit « Ah bah ça va, je suis en pays de connaissance !» Ce roman est à la fois loufoque, barré, drôlement bien écrit, structuré, très intelligent. Voilà, c'est pas un livre que vous lisez à la plage, déjà premièrement c'est une pavasse, hein. Alors ça, il faut le transporter ce truc, hein. Ça cale une porte. Hein. Il y a de la culture, il y a de l'histoire avec un grand H, mais il y avait des petites histoires, il y a des références, des interrogations sur la force de la propagande aussi, de l'acceptation de l'inacceptable, de la manipulation évidemment, et bien sûr au milieu de tout, vous avez l'horreur et le délire, hein, dans tous les sens du terme, parce que je rappelle que le narrateur n'est autre que Charlie Chaplin, hein, en gros. Alors, il est impossible vraiment d'expliquer ce roman. Il y a une comparaison à un moment donné entre les deux hommes qui ont des similitudes dans leur vie. Alors, est-ce que c'est le thème astral qui l'explique? Est-ce que c'est le fait qu'il soit né à 4 jours d'intervalle, etc. Parce que si on en dit plus, c'est vraiment, honnêtement, divulgâcher le plaisir de lecture, le plaisir de découvrir cette plume, l'imagination absolument folle qu'a eu Gérard Guis de faire ça, et la finesse du texte aussi, et puis il faut souligner aussi la traduction, hein, bien sûr, les traductions du catalan, parce que franchement, c'est vraiment très très bon. C'est un livre qu'il porte depuis des années et des années, vraiment, il s'est énormément documenté, alors à la fois, bien sûr, sur le Troisième Reich, Hitler, etc., mais surtout aussi, bien sûr, sur la vie du Charlie Chaplin, puisqu'il les met en double ganger. Donc, comme je vous dis, la couverture, la quatrième de couverture, c'est Charlie Chaplin, et enfin Charlot, en vérité, avec son nez rouge, et bien sûr, la couverture, c'est Adolf Hitler avec un nez rouge aussi, hein, pour faire bien la concurrence. Alors, je pense que vous l'aurez compris à mes paroles, j'ai vraiment adoré, mais vraiment adoré, c'est vraiment un très beau coup de cœur. Je vous dis, c'est une lecture très exigeante, mais qui vaut vraiment le détour, et les bas de page sont absolument formidables. Ça va de l'interpellation au lecteur à une explication historique qui est carré et qui peut prendre une page et demie de bas de page, hein. Donc alors les bas de page, c'est écrit encore plus petit que le texte. Alors inutile de vous dire que quelquefois ça fait très loufoque, mais c'est vraiment formidable. Si vous l'avez à la médiathèque, si vous le trouvez, n'hésitez pas. Si vous aimez ce genre de choses, c'est vraiment un livre il faut se jeter dessus, voilà, jetez-vous dessus et puis vous verrez bien, voilà. Donc c'était Doberganger de Gérard Guis. Alors on fait une petite pause musicale, et la chanson, c'est moi qui l'ai choisie, parce que j'ai dit, c'est sûr, parce que c'est pile poil le personnage. Il m'a dit, oh c'est bien, le lutin, il m'a dit, oh bravo. J'ai dit, mais j'adore cette chanson, c'est pour ça que je l'avais. Laurent Voulzy, Jeanne, et on va parler bien sûr de Jeanne. Oui, Dark, évidemment.
Jeanne, au bois dormant, vous prendrez pleine de mélancolie.
C'était donc Laurent Voulzy avec Jeanne. Et oui, on va parler de Jeanne d'Arc avec un livre qui s'appelle « Jeanne avant Jeanne » de Alec Medieff. Alors, Jeanne d'Arc, tout le monde la connaît. Voilà, on connaît tous, on a une image claire de cette femme qui a été mise au cinéma, dans les livres d'histoire, dans des romans, dans des BD, dans tout ce que vous voulez. Jeanne d'Arc, c'est une source inépuisable, on va dire, de littérature, de cinéma. Enfin bref, elle est dans la culture pop depuis des années. On sait que c'est une jeune fille qui vient de Lorraine, qu'elle vient de Don Rémy, qu'elle a entendu des voix, enfin en tous les cas une voix, qui lui a demandé d'aider le dauphin de France à bouter les Anglais hors de France, enfin en tous les cas hors du territoire français de l'époque, hein, parce que c'était pas tout à fait la France de maintenant, qu'elle a mené des hommes en armes, des guerriers, qu'elle a repris Orléans, qu'elle a fait couronner le roi, et qu'elle a fini sur le bûcher après un procès mené, bah, entre autres, hein, par l'abbé Cochon. Alors, tout ça, on le sait, tout ça, on l'a appris. On la voit bien, cette petite Jeanne, petite fille bigote, pucelle, avec son étendard blanc sur son cheval, etc. Mais pourtant, de cette Jeanne, la pucelle, de son adolescence, on n'en sait rien, voilà, ou quasiment rien. Et Alec Medieff a décidé d'imaginer l'adolescence de Jeanne. Et alors, ils nous ont fait, pauvres parents d'Arc, non, il faut le dire quand même, les pauvres gens, avoir une fille pareille, mon Dieu, mais... Alors, ils nous ont fait un portrait impressionnant, parce qu'en fait, il imagine que Jeanne est une féministe de première catégorie, qu'elle est remontée comme un coucou contre la mainmise des hommes sur les femmes, qu'elle ne comprend pas cet avenir vérolé et verrouillé sur les femmes, la liberté. Elle lutte pour la liberté des femmes, elle n'aime pas non plus les mariages ni arrangés, elle n'aime pas les mecs qui la regardent de traviole, ni ceux qui essayent de lui mettre la main aux fesses, et encore moins ceux qui essayent de la trousser à l'arrière d'une charrette ou de lui compter fleurettes sans son accord. Alors, inutile de vous dire que Jeanne, dans ce livre-là, enrage. Mais elle n'est pas très instruite. Elle va devenir un peu plus instruite grâce à son petit camarade de jeu, le petit voisin du coin, qui est un petit peu handicapé sur une jambe, mais qui en pince évidemment pour la Jeanne un peu rebelle, qui se décide de tout lui apprendre, en tous les cas tout ce qu'elle peut retenir, cette pauvre fille. Mais Jeanne, avec le peu de choses qu'elle apprend, elle trouve une autre perspective et elle n'hésite plus à transgresser tout ce qu'on lui dit. Alors les parents partent mais vraiment, il tourne en bourrique, les pauvres vieux. Elle fait tourner vraiment en bourrique tout le monde, ses parents, son petit voisin, les soupirants, les autres villageois qui ne la supportent pas parce qu'elle a un caractère assez ombrageux, la petite Jeanne. Et au fil des pages, honnêtement, en compagnie avec les proches de cette Jeanne-là, de celle que Médiev a inventée, bien sûr, de ses parents qui sont complètement dépassés par cette gosse, par cette saute d'humeur, par le fait qu'elle veut courir la cambrousse et aller voir le dauphin. Alors en plus, l'auteur revient sur des décennies de guerres qui sont sur le territoire de la Lorraine. Hein. Il faut dire que la Lorraine a morflé pendant de nombreuses années à cette période-là, et des restes des batailles perdues récemment par la France, notamment en 1415, à Azincourt. Alors évidemment, hein, c'est pas glorieux, faut dire, pour la France, hein, puisque toute la chevalerie et la noblesse de France a fini dans la boue et quick, hein. Ah bah oui, on s'est fait torcher, c'est un pas à tortiller là-dessus. Voilà, ça n'a pas été glorieux. Donc il y a encore cette espèce de rancœur qui va durer très longtemps contre nos amis britanniques, et on parle bien sûr d'alliances, de mésalliances, de tromperies, de machinations royales évidemment, et Alec Médiev, avec un style très moderne, hein, très enlevé, il y a des expressions très british, il y a des petites explications en fin d'ouvrage, etc. Mais on voit qu'il a pris un plaisir énorme à suivre dans son esprit le cheminement qui pouvait être la jeune Jeanne d'Arc avant qu'elle devienne l'icône et un peu la tête de pont de l'armée française. Tout ça par pitié pour ce pauvre dauphin qui n'a même pas été reconnaissant envers elle. Et je dois dire que ça explique aussi, alors ça peut, hein, c'est une explication, c'est pas un livre d'histoire pur, hein, c'est un roman, hein, on rappelle. Il le dit, hein, il invente ce que Jeanne aurait pu ou pouvait être à cette époque-là, puisqu'on n'en sait rien. Mais ça explique aussi l'esprit français qui, à partir de 1429, qui est quand même une date importante pour l'esprit français, on va dire, a fait que la nation française s'est soudée autour de cette gamine que, bah, en gros, elle était destinée à garder en gros les moutons et à se marier, à avoir une flopée de gosses et à fermer sa gueule. Hein. C'est à peu près ce qui devait lui arriver, surtout à cette époque-là, pour une femme. Si, quand vous étiez dans le fin fond d'une province de France, vous n'aviez pas trop droit, plus ou moins, si vous étiez aristocrate, vous aviez plus ou moins plus de droits. Et encore, on vous mariait pour des dots, pour une terre, etc. Et puis, vous n'aviez pas votre droit au chapitre. Hein, donc, voilà. Mais franchement, c'est un livre très agréable à lire, c'est drôle, c'est enlevé, c'est très très moderne comme écriture, il n'y a pas de mots anciens, il n'y a pas de trucs comme ça, et franchement, ça, voilà, c'était le truc le plus amusant, sympa, ça finit, et puis on se dit, oh, cette sacrée Jeanne, si elle était comme ça, oh, les pauvres parents, oh, les pauvres. Alors après, si vous avez des enfants et des ados difficiles dans votre période-là, lisez ce livre. Vous allez relativiser les vieux, je vous assure, vous allez relativiser vos gosses. Hein. Oh mon Dieu, si vous avez... mais vous imaginez, vous avez ça à la maison. Oh là là, Seigneur. Et en plus, elle finit à la tête, machin. Enfin non, bon, bref, Jeanne d'Arc. Donc Jeanne avant Jeanne de Alec Médiev. Franchement, si vous aimez ça, allez-y parce que c'est assez sympathique. Allez, on fait une petite pause musicale. Ah oui, il faut que je vous explique pourquoi je parle du nez et pourquoi je suis un peu bizarroïde. C'est qu'on m'a enlevé les dents de sagesse et donc j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai pas de mal, mais j'ai pas eu mal. Ni avant, ni après. Enfin, ni pendant, ni après. Mais du coup, ça m'a détourné. J'ai un rhume depuis pratiquement une semaine et demie qui ne passe pas. Alors, on m'a donné plein de trucs, mais en fait, c'est normal. Voilà. Donc, ça fait bizarre. Ça fait très, très bizarre. Écoute, on va écouter Nick Cayman, qui était quand même l'un des plus jolis garçons de l'époque. Ah, ben si. Oh, la pub de Lewis dans la laverie. Oh, et la pute de Coca-Cola. Ah, je sais, j'ai fait la pub, mais il faut aller voir. Non, mais ce garçon était une merveille. Produit par Madonna pour ce texte. Enfin, pour ce titre, pour carrément tout l'album qu'il a fait, d'ailleurs. Je crois qu'elle elle chante, d'ailleurs, sur une des chansons. Enfin, sur Every Time You Break My Heart, elle chante, d'ailleurs. Mais celle-là, on va écouter I Promise Myself. Oui, ça a un rapport avec le titre du dernier livre dont je vais vous parler, Nick Cayman, I Promise Myself, et on se retrouve juste après.
I promise myself I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself that I'd say a prayer for you, brand new tomorrow, where all you wish comes true. I promised myself that I'd make it up to you, my sister and brother.
C'était donc le regretté, hein, Nick Kamen. Oui, ah bah, il nous a quittés. Trop tôt, bien trop tôt. Alors, le lutin n'a pas été sympa parce qu'il m'a dit, de toute façon, t'as levé les dents de sagesse, mais c'est pas pour ça que ça t'a rendu plus sage. Aucun commentaire. Non, mais à ce niveau-là, faut pas faire de commentaires. C'est ridicule. Alors, on va parler des promesses orphelines. Eh, promise. Oui. Ah bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Des promesses orphelines de Gilles Marchand. Alors, Gilles Marchand, moi j'avais adoré Le Soldat désaccordé et j'aime beaucoup cet auteur parce qu'il a une plume très poétique, voilà, vraiment très très poétique et qui, en fait, généralement touche au cœur. Alors on est là avec Gino qui est le pur produit des 30 Glorieuses, hein, vous savez ces années juste après-guerre. Il est né à Paris et il va grandir dans les années 50-60 dans un petit village lordéanais. Et il rêve, ce petit garçon à l'époque, de ce que la société lui promet. C'est-à-dire un voyage sur la Lune, des voitures volantes, l'aérotrain qui était quand même une grosse... on va dire une grosse invention que tout le monde imaginait possible, hein. Ah oui, un aérotrain, c'est-à-dire un train qui vole, voilà. en tous les cas, qui va très vite. À côté, le TGV, hein, c'était un peu une calèche. Et il va tracer sa vie dans ce quotidien de l'époque, avec une vie assez modeste. Avec une maman qui est photographe, qui sillonne la France pour photographier des lieux pour être mis sur des cartes postales. Très vite, il va perdre son papa et il y a des silences qui vont s'imposer. Et quand il va avoir 8 ans, il va rencontrer Roxane, une belle jeune petite fille en fait, et sa vie va prendre une autre tournure. Alors pas forcément à cause de Roxane, mais pour, même sans elle, mais dans l'espoir de la revoir. Et là, Gilles Marchand, il va chroniquer la vie de Gino, en fait. C'est lui qui explique Gino, sa vie. Il a une écriture simple, alors pas simpliste, hein, on est bien d'accord sur la question, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment une écriture simple, poétique, mais il a une douceur pour son personnage. Et il s'est créé une atmosphère sociale et une vision du quotidien. Alors bien sûr, il y a de l'humour, il y a de la dérision, il y a de la mélancolie, il y a des petites touches de critique par-ci, par-là, mais l'auteur maintient Gino toujours dans son côté un peu idéaliste, même si il voit que ça se passe pas comme il faut, que ça se passe pas comme il espérait, il a quand même ce côté un peu rêveur, et il assiste à l'accélération d'une époque, à l'évolution technique, technologique, sociétale de cette époque, que tout le monde dit béni, mais qui ne l'était pas vraiment plus que ça, surtout pas pour les femmes. Mais Gino n'est lu de rien, il vit, en fait, il vit, il montre, il dit, et il parle sans détour de ce qu'il fait, en fait. Il parle, par exemple, de son retour à Paris, des chantiers sur lesquels il travaille, où il coule juste du béton, il rêve sa vie, ou plutôt il imagine la vie de rêve, l'espoir, ce qui lui fait traverser, en fait, les épreuves, les joies, les peines. Et on pourrait dire que Gino, c'est un anti-héros, un homme ordinaire, comme, en fait, tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire, mais qui n'ont jamais été mentionnés dans les livres. Alors, c'est un roman qui touche au cœur, parce qu'il parle du quotidien, des rêves d'enfance, de cette part de nous qui, bah, si on a un peu de la chance, est restée un peu idéaliste et qui nous porte quelquefois dans les moments les plus douloureux. Bon, il faut dire que vu le monde actuel, c'est un peu compliqué, hein, voilà. Donc, alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Les Promesses Orphelines, mais il m'a manqué quand même quelque chose pour que ça soit au niveau des coups de cœur que je vous ai présentés tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui m'a manqué véritablement, mais il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose que je me suis dit, ah mince, alors peut-être que c'est trop court, parce que c'est un roman qui est très 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 court, mais voilà, peut-être que ça a été trop court, peut-être qu'il me manquait un peu plus de pages sur certaines choses, mais vraiment c'est un très joli livre à lire, à découvrir. Si vous ne connaissez pas la plume de Gilles Marchand, qui est musicien aussi, hein, c'est un conteur, un musicien, ça se sent, hein, ça se sent dans sa rédaction, parce que on peut passer du rire aux larmes, mais il y a un rythme d'écriture, il y a un rythme un peu rock'n'roll quelquefois, et ça se ressent à la lecture. Donc Les Promesses Orphelines de Gilles Marchand, franchement, bon bah écoutez, vous pouvez y aller, hein, mais les quatre livres que je vous ai présentés, c'est vraiment été des bons deux coups de cœur et très bons livres, des autres deux bons livres pour la rentrée littéraire. Il y en a trois ou quatre que j'avais remarqué aussi, je vous les avais dit dans une des émissions de fin de saison. Écoutez, je les lirai, je vous en reparlerai. Alors, on va faire une autre pause musicale et... ah bah non, on fait pas de pause musicale ? Non, ah bah non, t'as dit non, pas pause... Oh là là, il est dictateur des fois. Alors, pas de pause musicale, on parle juste de la pile à lire d'octobre. Alors, en octobre, toujours mes petites maraudes de cette année, c'est-à-dire relire un Georges Sand dans la Pléiade et lire un roman régional. Alors, le roman régional s'appelle Le Café de Camille de Daniel Croze et de Daniel Magne, donc 80. Nous sommes en 1889. Adrien Soulages va partir de l'Aubrac, donc de l'Aveyron, pour devenir, dans un premier temps, garçon charbonnier à Paris, puis dans la Belle Époque, hein, Paris de la Belle Époque, puis un jour, en rencontrant une fameuse Camille, ils vont se marier, ils vont reprendre en premier lieu un espèce de café charbon place de Clichy, puis voilà, ils vont travailler vraiment comme des forcenés, et évidemment, on va les suivre et suivre leur progéniture, Après la Première Guerre mondiale, quand leur fils Aurélien va reprendre en fait le café de Camille, qui va devenir un lieu à la mode des années 30. Voilà, donc c'est du Daniel Kroos, c'est ancré dans l'Aveyron, c'est ancré aussi, bah, cette fois-ci un peu à Paris, mais voilà, c'est un bon roman régional, il a une très belle plume, je ne sais pas ce que ça donne aux quatre mains, mais je ne doute pas de l'intérêt de ce livre-là. Autre livre que je vais lire, c'est Baltimore de David Simon, qui date de quelques années. En fait, c'est vraiment... Il passe en revue toutes les tensions raciales, les circuits politiques, judiciaires, administratives, quelquefois aberrantes, les trafics de drogue dans la ville de Baltimore, qui est en fait une des villes au taux de criminalité le plus élevé aux États-Unis. C'est vraiment un portrait humain d'une cité qui est presque à la dérive, donc Baltimore de David Simon. Ensuite, je lirai un livre qui m'a été conseillé, qui s'appelle « Moi, qui ai servi le roi d'Angleterre » de Bohumil Hrabal. On est en Tchécoslovaquie dans les années 20, on est entre la Tchécoslovaquie des années 20 aux purges staliniennes, et puis on va assister à l'irrésistible ascension et à la chute, bien sûr, qui se fait d'un garçon de café qui est devenu richissime, qui est parti de petite taille, bâtard, avec une ambition démesurée, qui n'avait aucun complexe, enfin en tous les cas qui contrebalançait les complexes qu'il avait. Donc en fait, en gros, c'est grandeur et décadence, puisqu'il va finir dans un camp pour millionnaires déchus suite à un coup d'État communiste. Voilà, donc c'est bien. Après, je vais lire Zobin. Alors Zobin, c'est un vieux livre que m'avait conseillé un de mes oncles, qui m'avait dit, il faut lire ce livre une fois dans sa vie, sinon t'as loupé ta vie de lectrice. Super. Donc Zobin, c'est de Raymond Guérin. En fait, Zobin est marié depuis 4 ans, il aime sa femme l'aime, ils sont jeunes, pleins d'espérance, enfin bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, un jour, l'histoire va déraper parce que sa femme commence à perdre l'appétit, le médecin s'en mêle et il dit qu'il faut, il prescrit beaucoup de repos, on parle de maladie, on parle de dépression, d'établissements spécialisés. Il y a un défilé de blouses blanches qui prend le cas de madame très au cœur et en fait on se rencontre, ils se rendent compte, ces médecins, que sa femme, au bout de 4 ans de mariage, est toujours vierge. Voilà, c'est juste le postulat de départ de Zobin. Mon grand-oncle avait sûrement raison pour le lire, donc bah, je vais le lire. Ensuite, je vais lire Le diable dans l'assiette de Laurent Saulnier. Alors, on est, attention, dans un roman. Le personnage de Heinrich Hoffen est un personnage fictif que Laurent Saulnier a inventé, puisque, en fait, il en fait le cuisinier d'Hitler de 43 à 45. Quand on le rencontre, il a 108 ans. Il est entre maison de retraite et hôpital. Et il va expliquer par un long monologue intérieur, tout au long du roman, sa vie. Voilà, sa relation avec l'Allemagne d'avant, celle de maintenant, et son lien de plus en plus ténu avec le réel. Alors évidemment, il multiplie les contradictions et les ambiguïtés, hein, bien sûr, il a servi Hitler comme cuisinier, mais il ne le traite ni de monstre ni de diable, parce qu'en fait, en gros, il confesse qu'il aimait bien travailler pour lui, etc. Et évidemment, l'auteur le fait rentrer dans le complot du 20 juillet 44 en lui faisant sauver, bien sûr, la vie de Hitler. Alors, c'est un roman, attention, c'est fictif, il l'a dit plusieurs fois, mais j'ai vu passer des chroniques de gens qui disaient « Ah, c'est génial, on en apprend plus sur le cuisinier qui travaille... » Bon, à un moment donné, quand vous lisez un livre, il faut savoir, quoi. Hein. Voilà, c'est un roman. Sinon, il y a écrit « Histoire hein. », on est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est un livre que je voulais lire. J'ai une de mes copines qui me l'a recommandé, qui m'a dit « Toi, c'est ta spécialité, machin, vas-y, cool. Hein. » Ils savent très bien que j'aime pas quand on mêle des personnages trop près des hommes de pouvoir et qu'on déforme un peu la réalité historique. Des fois, ça me gêne. Enfin, c'est pas que ça me... Des fois, ça me gêne. Mais bon, voilà. J'ai eu l'occasion de voir un webinaire avec l'auteur qui a expliqué comment il avait travaillé. Donc, j'ai envie de voir ce qu'il en a fait. Et ensuite, je vais lire Le dernier de Platon de Ludovic Purson. Alors, c'est un auto-édité. qui en fait revient sur la vie d'un jeune paysan de la Meuse qui est cuirassier dans la cavalerie, qui va partir bien sûr à la guerre de 14. Et un siècle plus tard, c'est son arrière-petit-fils qui va découvrir une boîte en fer oubliée au fond d'un placard. Il va trouver le carnet militaire, la médaille, un chapelet, une photo, et il va se demander qui était ce fameux Joseph Purson. Et donc il va retracer la vie de Joseph dans les tranchées, etc. Donc voilà, je l'ai repéré sur un site, un groupe, vous savez, de Facebook de lecture, et l'auteur a juste mis le résumé et la couverture, et sachant que je suis très intéressée par la première guerre, et notamment 14, 15 et 16, je me suis dit que ça serait quand même pas mal, et puis la Meuse a quand même sacrément pris, donc on va voir. Et je relirai bien sûr George Sand. J'ai envie de lire Manon. Je vais voir si je vais lire Manon, puisque c'est en fait à la veille de la Révolution, c'est une petite paysanne illettrée qui va devenir l'amie de Émilien de Franqueville. Et donc, l'écho de la Révolution, ben, on va parler des biens nationaux, de l'état laïque bientôt, etc., etc., etc. Voilà. Sachant que au mois d'octobre, je vais participer à une lecture commune et je vais relire Le fantôme de l'opéra, donc de Gaston Leroux. Voilà. Alors, tout ça, ça sera les piles à lire d'octobre. Donc, forcément, au début du mois de novembre, je vous parlerai de mes lectures, et je vous dirai ce que j'en ai retenu, ce que j'ai aimé, pas aimé, etc., comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, même si Lulina n'a pas été trop aimable avec moi. Il vous a fait au moins découvrir une chanson de Johnny Hallyday, même si tous les fans de Johnny vont dire « Ah, mais je la connaissais, celle-là. » Oui, ben moi, non. Voilà. On va se quitter en musique avec une chanson que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup cet artiste et surtout cette chanson-là. Bah écoutez, elle est toujours dans mon MP3 depuis des décennies. Hein. Voilà, elle s'appelle Xanadu, la chanson. Nous, on s'occupe de vos petites oreilles, vous vous occupez de vous, de vos proches, de ce que vous aimez. Essayez de passer après entre les deux. Un rhume qui risque de vous attaquer. Bon, moi, c'est fait déjà. Voilà. Ah, oh, bah, écoutez. Enfin, j'ai plus de dents. J'ai plus de dents. J'ai plus mes dents de sagesse. Mais j'ai un rhume. Je sais pas si j'aurais peut-être pas fait de garder les dents de sagesse, en fait. Peut-être. Je sais pas. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous donc à la fin du mois d'octobre. J'espère que je vais avoir le temps, peut-être, d'en faire une autre au milieu du mois d'octobre pour vous parler d'expo, notamment à Paris, etc., et qu'il faut aller absolument voir. Hein, Sargent a l'air génial, l'expo Worth a l'air absolument divine, etc. Il y a énormément de super expos à Paris. Mais écoutez, si je n'y arrive pas et qu'on ne trouve pas le temps en ce moment avec Lutin, c'est un peu compliqué, on se donne rendez-vous fin octobre. On parlera évidemment de ciné, de documentaires et de séries. D'ici là, bisous, prenez soin de vous, et on se quitte donc avec Olivia Newton-John, Xanadu. Bisous, à bientôt, ciao.